Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Le président tunisien annonce la tenue prochaine d'un référendum sur les réformes constitutionnelles et juridiques, notamment la loi électorale. Le budget de l'année 2022 en Tunisie prévoit un endettement record de 6 milliards d'euros. Le député du mouvement Tahrir Tounes, Marwan Felfel, déplore une absence de concertation. Nous l'écouterons. Des manifestations anti-pouvoir militaire au Soudan. Des milliers de manifestants ont bravé un verrouillage général du pays, notamment dans la capitale Khartoum. L'armée israélienne autorise ses soldats à tirer à balles réelles sur des lanceurs de pierres ou de cocktails Molotov, même s'ils ne constituent plus une menace immédiate. Une nouvelle règle vivement dénoncée notamment par le président de France-Palestine Solidarité, Bertrand Elbron, qui sera l'un de nos invités. Washington nomme une émissaire spéciale pour les droits des femmes afghanes, une américaine née en Afghanistan qui avait travaillé dans l'administration de l'ex-président Barack Obama. La lutte contre la très forte hausse des cas de Covid-19, le port du masque redevient obligatoire dans la quasi-totalité de l'Île-de-France, une mesure qui prend effet dès ce vendredi. Le président tunisien annonce la tenue d'un référendum sur les réformes constitutionnelles et juridiques, notamment la loi électorale. Il aura lieu après la consultation nationale électronique prévue du 1er janvier au 20 mars prochain. Kais Saied précise qu'une commission se chargera de la collecte et de la concrétisation des propositions soumises par les citoyens après consultation dans les textes juridiques. Il rappelle que les élections législatives auront lieu le 17 décembre prochain. La Tunisie, où le budget de l'année 2022 prévoit un endettement record, endettement de 6 milliards d'euros, objectif relancer une économie lourdement affectée, notamment par la pandémie de Covid-19. Sur ce budget 2022 en Tunisie, entretien avec le député du mouvement Tahrir Tounes, Marwan Felfel, qui déplore une absence de concertation.
C'est comme tous les décrets aujourd'hui et les lois en Tunisie, sont émis sous forme de décrets présidentiels signés par le président de la République, en se basant sur sa version des mesures exceptionnelles, des états d'exception qui aujourd'hui gèrent la Tunisie.
C'est un budget qui a été établi sans discussion, c'est ce que vous nous dites ?
Exactement, ni avec les syndicats, il n'y a aucun débat public autour de ce budget. Je ne parle pas des partis politiques ou des députés ou même avec les différents partis prenants, c'est-à-dire les syndicats, les professions, tous les secteurs touchés par les mesures ou les universitaires, c'est-à-dire la société civile, personne n'a été sollicité ou il n'y a aucun échange sur ce sujet, surtout où il y a un certain nombre de sujets qui doivent être débattus en public, avoir un minimum de consensus national, certainement l'endettement, la fonction publique, les réformes et les mesures qui concernent certains secteurs essentiels. On parle notamment des secteurs prioritaires aujourd'hui après la crise sanitaire, c'est-à-dire la santé, mais aussi sur des questions de la subvention publique, soit aux matières premières, c'est-à-dire les produits de première nécessité, c'est-à-dire le carburant, c'est-à-dire tout ce qui concerne la subvention publique.
Vous évoquiez l'endettement. La Tunisie prévoit pour 2022 un endettement de 6 milliards d'euros. Et l'objectif est bien entendu de relancer l'économie, affectée notamment par la crise sanitaire.
Exactement. C'est-à-dire on continue sur la même lignée d'endettement. Le budget de 18 milliards de dinars d'endettement, dont 12, dont la moitié presque de l'endettement extérieur. C'est-à-dire on reste sur les mêmes proportions d'endettement extérieur, sur aussi le déficit budgétaire qui peut atteindre 7% prévu dans cette loi de finances. Aussi des mesures d'amnistie qui ont été souvent critiquées par le président de la République lorsque ça a été évoqué au mois de juillet à l'Assemblée sur l'amnistie de cash, du cashing, sur des mesures de ce genre. Ça a été qualifié par le président de mesures encourageantes à la corruption ou pour certains lobbies.
Et c'est un budget qui a été élaboré sur la base d'un taux de croissance de 2,6% en 2022 ?
Exactement, avec certaines hypothèses de taux de croissance de prix de baril, je crois, à $75, avec des hypothèses de taux de change également. C'est raisonnable, mais ce qui est plutôt surprenant, c'est-à-dire le manque de concertation, le manque de dialogue avec les différents parties prenantes.
Ce budget a été établi à la suite de discussions menées au cours de l'année 2021 avec le Fonds monétaire international, des discussions pour l'obtention d'un nouveau prêt, mais cela en contrepartie de réformes destinées à assainir les finances de la Tunisie.
Bien sûr, et beaucoup de Tunisiens les nomment, c'est des réformes qui ont tardé, c'est des réformes concernant la masse salariale de la fonction publique qui atteint des proportions les plus élevées à l'échelle mondiale, c'est-à-dire la réforme de la subvention publique, c'est-à-dire en matière de matières de base et au carburant, les réformes liées aux entreprises publiques, qu'une partie de ces entreprises sont déficitaires et aujourd'hui causent et subissent des déficits même qui impactent le budget de l'État. Et quatrièmement, c'est la fiscalité et la digitalisation de l'administration fiscale. Ces quatre défis majeurs doivent être aussi, et c'est exigé par le FMI, ça doit être en concertation avec les différentes parties prenantes, notamment les syndicats et la société civile tunisienne. Aujourd'hui, on attend ce débat qui soit ouvert en Tunisie avec toutes les différentes parties prenantes pour arriver à une feuille de route.
Le député tunisien Marwan Felfel. Des milliers de manifestants ont bravé un verrouillage général au Soudan. Les forces de sécurité ont tiré des grenades lacrymogènes à Khartoum, à quelques centaines de mètres du palais présidentiel, là où siège le général Abdel Fattah al-Burhan, l'auteur du putsch du 25 octobre. Des manifestations anti-pouvoir militaire ont eu lieu dans d'autres villes du Soudan, notamment Kessala et Port-Soudan dans l'est ou Madani au sud de Khartoum. Le nouveau parlement d'Irak tiendra le 9 janvier prochain sa séance inaugurale. Un décret a été promulgué ce jeudi par le président de la République, cela près de 3 mois après les législatives du 10 octobre. Selon la Constitution, le chef de l'État invite l'Assemblée à tenir sa session inaugurale avec à sa tête le plus âgé des 329 députés avant que ne soit élu son président. Au Maroc, un homme sympathisant du groupe État islamique a été arrêté à Salé par le Bureau central d'investigation judiciaire. Il a été déféré devant le parquet en charge des affaires de terrorisme et d'extrémisme. Il avait téléchargé plusieurs documents depuis des sites extrémistes relatant les étapes de fabrication d'engins explosifs. L'armée israélienne change ses règles de tir contre les civils palestiniens. En clair, les soldats pourront tirer à balles réelles sur des lanceurs de pierres ou de cocktails Molotov, même s'ils ne constituent plus une menace immédiate. Jusque-là, les règles n'autorisaient l'utilisation de la force létale que pour prévenir une attaque imminente. Le premier ministre de l'autorité palestinienne qualifie ses nouvelles règles de politique d'exécution. Il en appelle à l'intervention urgente de la communauté internationale. Sur ces nouvelles règles, entretien avec le président de l'association France-Palestine Solidarité, Bertrand Helbron.
La première réaction, c'est de dire aussi quand même que ce n'est pas nouveau, que le fait que l'armée israélienne tire sur les Palestiniens, sur les civils palestiniens, en dehors de toute menace contre les soldats, on l'a vu. Alors, de manière particulièrement forte, lors des marches de retour à Gaza, où des Palestiniens étaient ciblés, y compris le personnel médical, clairement par les tireurs israéliens. On l'a vu aussi tout au long de cette année, où le nombre de morts palestiniens dans les manifestations s'est accru de manière très importante. On le voit aussi la manière dont l'armée israélienne protège les colons dans leurs actes violents, qui sont de plus en plus graves contre les Palestiniens. Mais là, effectivement, l'officialisation de cette règle, même si l'armée dit que non, ces règles d'engagement sont secrètes, est quand même un signal supplémentaire d'impunité qui est donné aux officiers et aux soldats israéliens qui tirent sur les Palestiniens. C'est évidemment totalement... les mots, on ne sait plus quel mot utiliser. On va dire scandaleux, mais c'est pire que ça. Ce sont des crimes, c'est les militaires qui commettent ces actes sont des criminels de guerre, qui sont passibles de la Cour pénale internationale, qui sont devraient être jugés pour leurs actes. C'est aussi un signal supplémentaire de mépris du gouvernement israélien vis-à-vis de la population palestinienne. Je pense que c'est quelque chose qui devrait aussi être entendu par nos gouvernements, notamment en France et en Europe, que ce gouvernement qui veut se donner parfois une allure convenable, à l'extrême droite, dans la négation totale des droits des Palestiniens, et probablement pire que celui de Netanyahou.
Le Premier ministre de l'autorité palestinienne en appelle à l'intervention urgente de la communauté internationale. Qu'attendez-vous aujourd'hui de la part de la communauté internationale et notamment de la part de l'Union européenne?
On pourrait dire déjà qu'il faudrait des actes. Avant les actes, il faudrait des déclarations claires. Ces déclarations claires, ça fait un moment qu'on ne les a même pas. Je pense notamment à ce qui se passe avec les 6 ONG palestiniennes de défense des droits de l'homme qui ont été de manière absolument scandaleuse accusées par le ministre de la Défense israélien d'être des organisations terroristes, qui a pris un acte d'interdiction à leur égard. Franchement, les réactions de la communauté internationale qui demande vaguement des éclaircissements à Israël ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait attendre dans ces cas-là. Donc on attendrait là aussi des déclarations claires de soutien à la population palestinienne, de soutien aux ONG de défense des droits de l'homme, qui d'ailleurs documentent des crimes commis par l'armée israélienne. Aujourd'hui, même les déclarations font défaut. Donc j'aurais tendance à dire que la France, que l'Union européenne déclare de manière très claire que ceci est totalement inacceptable et que enfin elles mettent en place de véritables moyens de pression pour que ces politiques cessent. Et on voit bien aussi que le mot occupation n'a plus beaucoup de sens. Enfin, une occupation qui dure depuis 54 ans est une occupation colonisation, c'est une entreprise de dépossession du peuple palestinien, c'est beaucoup plus qu'une occupation temporaire. On est dans un système organisé d'oppression qu'on appelle l'apartheid. On est dans un système qui ne peut plus durer. La première demande des Palestiniens, c'est que cesse cette occupation militaire. Je crois que c'est là-dessus aussi qu'il faudrait intervenir à cette fin d'année, au tournant de cette année 2022, avec beaucoup plus d'énergie qu'on ne l'a fait jusqu'à présent.
Et vous déplorez notamment les destructions de maisons dans les territoires occupés. Les forces israéliennes qui ont démoli cette semaine 11 structures palestiniennes en Cisjordanie.
En Cisjordanie et à Jérusalem, un immeuble d'habitation a été détruit dans le quartier Al-Bustan de Sidouane, donc un quartier de Jérusalem-Est au bord de la vieille ville, avec lequel d'ailleurs de très nombreuses collectivités françaises ont des relations de coopération. Pendant que effectivement on est dans cette période de vacances, pendant qu'on a les yeux qui sont tournés un peu ailleurs, les Israéliens redoublent d'intensité dans leurs entreprises de destruction. Et donc je pense que quand on fera le bilan complet de l'année 2021, ça sera une année particulièrement noire en termes de destruction de structures et d'habitations palestiniennes.
Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la politique des États-Unis vis-à-vis de ce qui se déroule au Proche-Orient?
Les États-Unis semblent être aujourd'hui dans une politique d'illusion, de croire qu'ils peuvent demander quelques bonnes grâces au gouvernement israélien pour faire, entre guillemets, baisser l'intensité du conflit, ne plus s'en occuper et aller regarder ailleurs du côté du Pacifique. Tout ce qui se passe va totalement à l'encontre de ce projet. La colonisation ne cesse de s'intensifier. On voit ce que l'occupation militaire devient de plus en plus horrible. Les Israéliens, en fait, sous couvert de quelques mesures qui sont d'ailleurs réversibles, genre quelques permis de travail à des Palestiniens pour aller travailler en Israël en ayant après avoir ruiné leur économie, en fait, sont dans une politique de répression de toute résistance palestinienne beaucoup plus féroce que ce qu'on a été jusque-là. En témoigne l'attaque contre les ONG palestiniennes de défense des droits de l'homme. Et donc, les États-Unis froncent parfois le sourcil quand il y a des projets de colonisation trop caricaturaux. Bon, les Israéliens, ils disent qu'ils vont attendre quelques semaines ou quelques mois. Et par ailleurs, n'ont même pas le courage d'imposer l'ouverture d'un consulat à Jérusalem-Est, comme ils s'y étaient engagés. Donc on a une politique de faiblesse et les politiques de faiblesse, ça ne fonctionne pas avec Israël.
Le président de l'association France-Palestine Solidarité, Bertrand Elbron. Washington nomme une émissaire spéciale pour les droits des femmes afghanes, une priorité affichée de l'administration américaine depuis que les talibans ont pris le contrôle du pays. La nouvelle émissaire, Rina Amiri, est une américaine née en Afghanistan qui avait travaillé dans l'administration de l'ex-président Barack Obama. Elle doit travailler sur les droits humains et les libertés fondamentales des femmes, des filles et des autres populations à risque dans toute leur diversité. Le respect des droits des femmes est l'une des conditions exigées par les donateurs pour la reprise de l'aide internationale à l'Afghanistan, le pays dirigé par les talibans. La lutte contre la très forte hausse des cas de Covid-19 en France, le port du masque redevient obligatoire dans la quasi-totalité de l'Île-de-France. La mesure prend effet ce vendredi à Paris, en Seine-Saint-Denis, dans le Val-d'Oise, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, ainsi que dans les agglomérations de l'Essonne et les centres-villes des agglomérations des Yvelines. Sont concernées les personnes âgées de plus de 11 ans, à l'exception des personnes qui circulent à l'intérieur des véhicules, des cyclistes et des usagers des deux roues ou des personnes qui pratiquent une activité sportive. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 €. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient à 19h et 23h. Ici, on en parlait. Le thème de cette émission, radiographie de la jeunesse, ses espoirs, ses angoisses, ses valeurs. Émission avec Vincent Thibert, chercheur, et Stewart Shaw, co-auteur de La Fracture, enquête IFOP sur la jeunesse depuis les années 50, édité par Les Arènes. Émission présentée par Alexis Bachelet. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient et un très grand merci pour votre fidélité.